Frédéric Jamet, bonjour.
Bonjour.
Directeur des investissements chez SSGA France. On va parler avec vous donc de perspectives hein, pour les marchés. Comment on aborde un peu cette fin d'année, début d'année prochaine en tant qu'investisseur? Est-ce que on a toujours le même horizon d'investissement ou est-ce que c'est un peu plus compliqué?
C'est un petit peu plus compliqué. Disons qu'il faut accorder ses investissements avec la perspective macroéconomique que l'on a. Alors, on a une perspective macroéconomique qui est un peu plus modérée qu'elle n'était en 2015. Une croissance économique globale à peu près à 3% contre plutôt 3,5% l'année dernière. Une baisse de la croissance des États-Unis à 2,5%. Une baisse de la contribution des émergents. Une petite remontée de la croissance attendue en Europe, et ça c'est un aspect intéressant, on va y revenir. Et puis surtout une augmentation des risques. Alors on a le risque de remontée des taux de la BCE, de la Fed, pardon, avec toute la problématique du timing. Bon, l'articulation de la BCE, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et puis surtout les risques venant des pays émergents, donc le risque du Moyen-Orient, on l'a vu malheureusement récemment, tout le risque articulé sur la croissance chinoise. Donc ça nous donne une translation dans la problématique des investissements qui est d'abord articulée sur la maîtrise du risque.
Est-ce que la partie entreprise aussi, on s'attendait notamment en zone euro avec les baisses de l'euro, des croissances de résultats, puis finalement on a l'impression que du côté des entreprises, on est plutôt sur une révision à la baisse un petit peu des résultats au global. Comment on envisage finalement ce qui fait un peu le moteur des marchés?
Alors, bon, les chiffres ne sont pas encore tous, je dirais, extraordinairement bons, mais notre cas d'investissement sur les actions européennes est assez clair, c'est-à-dire que vous avez eu une baisse assez substantielle de l'euro ou une hausse du dollar, ce qui est positif, une baisse des matières premières et notamment du pétrole de plus de 50%, les mesures de soutien de la BCE. Et des actions européennes qui aujourd'hui ne sont pas extraordinairement chères, en tout cas sont beaucoup moins chères que par exemple les actions américaines. Donc aujourd'hui notre idée c'est investir sur les actions européennes, même si elles n'ont pas encore complètement délivré leurs résultats, c'est le bon moment, et spécialement investir sur les actions de type cyclique, domestique, small cap.
Oui, parce que effectivement, on peut se dire si les révisions à la baisse continuent, il y a un moment donné où les investisseurs pourraient craindre justement que les entreprises ne délivrent pas.
Je crois que sur les actions européennes, on est aujourd'hui sur quelque chose qui est quand même raisonnablement bien diversifié. Vous avez ces actions domestiques locales, small cap, etc., qui sont pas trop chères, qui sont sur une économie qui va croître à 1,5% soutenue par la BCE. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis vous avez de toute façon la possibilité d'investir de façon internationale à travers bon, les fameuses belles valeurs type L'Oréal, etc., qui sont plus ouverte sur, je dirais, sur le monde Europe.
Alors c'est vrai que ça fait depuis quelques mois maintenant que les marchés émergents n'ont pas la cote auprès des investisseurs. Il y a des raisons de fond, bien entendu. À quel moment ça peut redevenir la période peut devenir plus favorable? Parce que cette hausse des taux américaines, finalement, elle est tellement attendue que maintenant, ça y est, si elle arrive pour les marchés émergents, bon, ça y est, il y a même des marchés émergents, des responsables qui disaient « allez-y ».
Alors, les marchés émergents, c'est une problématique complexe parce que ça n'est pas une classe d'actifs homogène. Donc notre idée, c'est finalement les diviser entre les bons marchés émergents et les mauvais marchés émergents. Les bons vont être les pays qui ont entamé des réformes un peu structurelles et un peu tournées vers l'avenir. Donc on va parler du Mexique qui a fait des choses sur son secteur énergétique. On va parler de l'Inde qui est en train de réorganiser toutes ses infrastructures. Probablement de la Chine qui reste quand même un pays qui a des ressources. Qui est en train de se renouveler. A contrario, vous avez des pays qui sont complètement bloqués, je dirais, côté réforme. Des pays comme la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud sont des pays qui clairement sont en retard. Donc là aussi, on privilégie plutôt une approche, je dirais, assez active en termes de sélection, en termes de timing. Et là aussi, l'aspect intéressant, ça peut être de se tourner vers des petites ou des moyennes capitalisations de pays émergents pour mieux capturer la partie locale de la croissance.
On voit au global sur ces marchés le rôle bien sûr des banques centrales, on le disait avec ce que va faire la Réserve fédérale américaine, ce que va faire la BCE, on est dans ce qu'on appelle, ce que les spécialistes appellent une désynchronisation des politiques monétaires. Les vieux boursiers diraient attention, 1994 ça s'était pas bien passé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un risque de ce côté-là où les investisseurs ne le voient pas? Quelle est un peu l'analyse qu'on peut faire?
Alors, 1994, vous avez tout à fait raison, il y a une désynchronisation assez brutale et assez violente des politiques américaines et européennes. On est aujourd'hui dans un contexte complètement différent puisque bon, la politique de la BCE est assez claire. On est aujourd'hui, je dirais, dans les taux à zéro, voire les taux négatifs, et il est même question de renforcer d'une façon ou d'une autre cette approche. En tout cas, on y est pour un horizon au moins de moyen terme. Les anticipations sur la Fed sont claires, on est plutôt dans une phase de remontée, mais c'est une remontée qui est tellement prudente, tellement graduelle. Le thème de la divergence de la Fed et de la BCE était un thème qui était déjà abordé au début de l'année dernière. Au total, il ne s'est rien fait jusqu'à présent durant presque toute l'année 2015. Et tout laisse à penser que la Fed, si effectivement elle va probablement remonter ses taux, va le faire de façon extrêmement prudente et graduelle, n'hésitant pas à suspendre le mouvement si, je dirais, il y a le moindre à-coup ou si la moindre mauvaise perception faite par le marché.
Alors, si on fait un petit bilan de l'année 2015, on voit que les investisseurs sont, entre guillemets, soit endormis, si on veut être méchant, sont laissés porter par les banques centrales au premier semestre. Et puis, ils sont tellement laissés porter qu'à un moment donné, ils ont réagi quand il y a eu notamment cet été la question chinoise. Est-ce qu'il y a des risques qu'ils ne voient pas, ou des risques qu'il faut quand même, vous devez vous les prendre en compte. Vous avez parlé d'un certain nombre de risques, mais il faut les avoir en tête.
Ah, on a clairement... deux ou trois risques qu'il faut avoir en tête, d'où l'importance de maintenir, je dirais, le focus sur la maîtrise de la volatilité de son portefeuille et rester prudent en utilisant des allocations dynamiques, ne pas hésiter à être très flexible d'un côté, ou utiliser des stratégies dites minimum volatilité ou manage volatilité de façon à minimiser l'exposition à la volatilité. Alors on pense au risque géopolitique global émergent Moyen-Orient et chinois, on pense à la problématique de la Fed. Donc ça vous amène par exemple aujourd'hui à être très prudent en termes de timing à court terme sur les marchés émergents. Ça nous amène à être prudent également sur les actions américaines qu'il faut plutôt sous-pondérer et investir à travers, je dirais, une approche défensive. Et puis globalement, considérer l'ensemble de son portefeuille et s'éloigner des schémas dits 60-40, 60 actions, 40 obligations, et adopter quelque chose de beaucoup plus flexible.
C'est la clé finalement, puisqu'il y a cette volatilité qui peut revenir sans prévenir.
Absolument. On était plutôt dans des phases de basse volatilité, je dirais, au début de l'année 2015, des choses avec le VIX, dit indicateur de volatilité, indicateur de la peur, aux alentours de 10%. Aujourd'hui, on est plutôt dans des 15%, et on a vu notamment au cours du mois d'août cet indicateur complètement exploser, montrant l'aversion au risque et surtout, je dirais, l'accélération de l'aversion au risque qui peut être extrêmement violente des investisseurs.
Merci Frédéric Jamet.
Merci.